bien, je vous propose que nous commencions. Peut-être que quelques personnes qui avaient réservé vont nous rejoindre. Hein. Il est juste 5h après tout. Bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles, surtout des nouvelles d'ailleurs. Hein. J'ai toujours pensé que les femmes étaient plus aventureuses que les hommes, on voit bien. Hein. Dans les ateliers, il y a quelques hommes et puis beaucoup de femmes, parce que les femmes vont se confronter aux questions, aux problèmes, aux difficultés. Les hommes, ils restent devant leur télé, il n'y a pas de problème. On ne peut pas faire du sexisme, mais quand même. En tout cas, l'atelier d'histoire de l'art entre.
Martin, on vient juste de commencer.
Tiens, tu peux. On commence juste. Bien. Vous savez que cet atelier d'histoire de l'art, qui est le 26e du nom, est consacré à un thème. Que j'ai appelé chef-d'œuvre. Je vous rappelle d'ailleurs que chef-d'œuvre au pluriel prend un S à chef et pas à œuvre. Hein. On a envie de mettre des S partout. Non, c'est qu'à chef et pas à œuvre. Donc nous allons parler des chefs-d'œuvre. Et j'ai souligné ou surtitré ce titre de la locution Ces inconnus célèbres. Parce que je pense en fait qu'un certain nombre d'œuvres que nous connaissons tous très très bien, dont nous savons les noms, dont nous connaissons les auteurs, à peu près la date, sont des œuvres que effectivement nous avons dans l'œil et dans la tête, mais que finalement peut-être on ne connaît pas si bien que ça. En tout cas, c'est un postulat dont nous allons voir durant ces 5 séances s'il est vrai ou pas. Donc le but va être, dans ces séances, de découvrir des œuvres que vraiment vous connaissez très bien, mais que peut-être il est bon d'explorer un peu davantage. Ce titre, d'ailleurs, reprend comme une sorte de clin d'œil le titre d'un roman de Balzac qui s'appelle « Le chef-d'œuvre inconnu ». Je ne sais pas si vous connaissez ce roman, qui est un court roman de Balzac, mais qui, justement, évoque ça, une œuvre extrêmement importante, mais inconnue. Ben, finalement, nous allons, dans ce sillage-là, nous intéresser à 5 œuvres, vraiment que tous vous connaissez, ou toutes, mais qui peut-être nécessitent d'être un peu plus creusées. Alors, je voudrais rappeler aux habitués de l'atelier, mais évoquer auprès des nouveaux, car il y a pas mal de nouveaux ou de nouvelles, surtout ce soir, ce dont je me réjouis fort, je voudrais évoquer les quelques règles qui sont les nôtres, car dans les ateliers histoire de l'art, nous avons des petites règles que voilà. Alors je les commenterai très vite, les habitués les connaissent par cœur, ils les ont d'ailleurs sur leur table de chevet, quasi. Hein. La première, c'est bien entendu de ne pas hésiter à prendre la parole, hein. On est tous égaux, hein, donc tout le monde peut parler. Bien entendu, il ne s'agit pas non plus de la monopoliser. Hein. Nous suivrons dans ces ateliers une certaine méthodologie qui va évidemment changer d'un cas à l'autre. Ces ateliers sont des ateliers d'histoire de l'art. L'histoire de l'art, c'est une science, à sa manière, une science humaine. C'est donc avec une certaine méthodologie que nous aborderons les choses. Nous cesserons de limiter les commentaires esthétiques subjectifs. Hein. En histoire de l'art, nous avons la science. Nous ne sommes pas là pour étaler, si j'ose dire, nos propres goûts. Alors, on a le droit d'avoir des goûts. Hein. On n'aime pas, on aime plus ou moins, que sais-je encore. Mais le but d'un atelier histoire de l'art, que l'on aime ou qu'on n'aime pas les œuvres que l'on analyse, c'est de les scruter avec l'œil d'un historien ou d'une historienne de l'art. Alors la question subjective, esthétique, nous concerne chacun d'entre nous. Évidemment, on peut en parler ensemble, mais dans ces ateliers, l'idée est plutôt d'aborder l'art d'une manière plus, entre guillemets, scientifique, même si cette science est une science humaine. Nous n'utiliserons pas Internet, à part pour le diaporama, n'est-ce pas, que je vous soumets. Vous laissez donc dans vos poches vos tablettes diverses et variées qui sont vous attendre pendant une heure et demie. Et puis j'ai mis à la fin, vous le savez, comme phrase « connaisseur s'abstenir ». Si certains ou certaines d'entre vous, dès que je fais passer la première image ou celle des séances suivantes, connaissent très très bien l'œuvre et tout son contexte, je vous remercie peut-être de ne pas immédiatement étaler tous les éléments, vous savez, parce que ça viendrait évidemment couper dans l'œuf, hein, la séance en question. Hein, puisque le but, c'est évidemment que chacun puisse petit à petit travailler sur les diapositives que je vais montrer, qu'ensemble nous construisions un peu cette connaissance. Alors si d'emblée tout est étalé dès le départ, ce serait un petit peu dommage, et ça veut dire qu'on mouillerait le pétard d'emblée. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ces règles-là ? Ça vous paraît clair ? Ouais ? Bon. On commence ? Alors, j'ai choisi aujourd'hui une œuvre que vous connaissez toutes et tous, une œuvre que je vais vous dévoiler dans un instant, dont je vais vous demander de me dire, dès qu'elle apparaîtra à l'écran, et l'auteur et le titre. Et à vrai dire, je suis persuadé que vous connaissez tous et toutes, et l'un et l'autre.
Le penseur de Rodin.
Voilà, le penseur de Rodin. Voilà, c'est vrai. Pardon ?
Il est à Lyon dans la cour du Musée des Beaux-Arts.
Alors, notamment, vous avez raison, il y a notamment dans la cour du Musée des Beaux-Arts de Lyon un exemplaire du penseur de Rodin. Ça n'est qu'un exemplaire, il y en a beaucoup d'autres. Hein. L'exemplaire que je vous montre là, qui est, j'allais dire, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure, un peu l'exemplaire, j'ai presque dire éponyme, se trouve au Musée Rodin, à Paris, dans les jardins du Musée Rodin. Mais vous avez raison, dans la cour du Musée des Beaux-Arts de Lyon, il y en a un, mais vous en verrez un peu partout de par le monde. Hein. Le penseur de Rodin. Bien. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a dit effectivement le titre de l'œuvre, on a dit le nom de son auteur. Est-ce que vous auriez une petite idée de la date, vaguement, qui pourrait être celle du penseur de Rodin? Vous situeriez ça quand?
Fin
19e, ok. D'accord. Est-ce que, si on peut se risquer à une fourchette de datation, on pourrait aller plus précisément vers quelque chose?
Vers 1880.
Vers 1880. Donc fin 19e, vers 1880. Fidèle à nos traditions, vous pouvez me parler de la matière de cette œuvre?
De la pierre.
Marbre, pierre.
Ou du marbre.
Pierre, marbre.
Le marbre, c'est de la pierre.
Le marbre, c'est de la pierre.
C'est de la pierre aussi, oui. C'est de la pierre précieuse.
Bon, disons, on pourrait dire calcaire ou marbre, dans ces cas, ouais. Même si le marbre est une sorte de calcaire métamorphisé. Mais bon. Donc, pierre, éventuellement marbre. Tout le monde est OK avec ça? C'est la seule solution?
Ça peut être du bronze.
Ça peut être du bronze. Et non seulement ça peut être du bronze, mais c'est du bronze, absolument. Oui, ce que vous voyez là, c'est du bronze. Bon, la lumière, vous voyez, étant ce qu'elle est, voilà, on peut prendre ça effectivement pour une pierre, mais en fait, c'est une œuvre en bronze. Hein. Ce que vous voyez là, c'est une sculpture en bronze. C'est d'ailleurs pour ça que vous verrez d'autres penseurs de Rodin ailleurs, parce que le bronze, ça se moule et ça se coule, plus exactement. Hein. C'est pour ça que vous verrez de par le monde un certain nombre d'autres représentations de penseurs de Rodin, notamment parce que ben, on peut en faire des exemplaires multiples. Bien. Alors, je vous montre quand même la même œuvre, mais avec le petit cartel correspondant. Hein. Cette œuvre est donc celle du Musée Rodin à Paris. C'est donc une œuvre d'Auguste Rodin. Et bel et bien, le penseur, il est ici daté de ces deux périodes, 1880 et 1904. Pourquoi, à votre avis, j'ai mis deux dates?
À la coulée.
Alors la coulée, absolument, en l'occurrence, c'est ça. C'est-à-dire que l'œuvre, l'œuvre elle-même, si vous voulez, a été élaborée et plus ou moins terminée. Si on peut dire que Rodin n'a jamais terminé quelque chose, d'ailleurs, mais ça, on y reviendra sûrement. En 1881, donc vous voyez juste hein, tout à l'heure, mais cet exemplaire-là a été coulé en 1904. On aura à en reparler plus tard. Bien. Très bien. Donc, ça y est, c'est vu. Est-ce que vous pourriez maintenant me décrire un peu cette œuvre? Qu'est-ce que cette œuvre vous suggère? Si vous aviez à la décrire, à dire ce que vous avez sous les yeux, et au-delà de ce que vous avez sous les yeux, c'est-à-dire la représentation qui est la vôtre, quelle est l'idée qu'il y a derrière? En représentant ce penseur, Rodin, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il veut nous faire ressentir? Donc, un, le sujet, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit? Physiquement, c'est quoi? Ce qu'on a sous les yeux? Et deux, quelle est l'idée qu'il y a derrière?
Un homme nu.
Un homme nu.
Qui est sur la condition humaine.
Oui, alors qui réfléchit sur la condition humaine. Massif, oui.
Oui, moi qui
pense. Dans ses pensées.
Musclé.
Très musclé. Très, très musclé. Absolument. C'est important. Hein. Oui, un homme qui est, selon les canons de la musculature, on va dire gréco-romaine académique, ça va. Assis. Donc là, vous venez, en deux mots, hein, de décrire effectivement ce que l'on voit, un homme nu, musculeux, puissant, fort, qui réfléchit, qui pense, hein, le nom de penseur, une musculature, on va dire, super développée, peut-être. Hein, bien. Donc il y a vraiment une notion de force et de puissance hein, qui sort de cette sculpture, absolument. Et alors, derrière ça, qui est effectivement la description rapide hein, mais de ce qu'on a sous les yeux, Quelle est l'idée que Rodin peut peut-être essayer de nous faire partager en nous montrant ce penseur-là? Qu'est-ce qu'il veut dire, Rodin? Oui.
Est-ce que c'est Rodin qui a donné le titre?
Alors, à la fois oui et non. On verra pourquoi tout à l'heure. Hein. C'est plutôt un titre qui s'est imposé populairement, mais qui ensuite a été, validé par Rodin, et il l'a appelé lui-même le penseur. Mais votre remarque est intéressante. Effectivement, c'est une œuvre qui a connu un tour de succès assez rapide après sa présentation publique. Très vite, on l'appelle le penseur, parce qu'évidemment, la seule chose à laquelle on pense, on voit le penseur. Hein. On pense qu'il pense, donc on l'appelle le penseur.
Je suis pas d'accord.
Pardon ?
Je ne suis pas d'accord.
Ah, alors ?
Non, je ne suis pas d'accord, parce que je pense que c'est sujet à caution. Bien sûr, pour tout le monde, c'est le penseur, donc c'est la condition humaine, etc., etc. Mais moi, si on le voit pour la première fois, peut-être que c'est un homme qui souffre physiquement.
Oui.
Moi, je n'irai pas forcément tout de suite sur le... peut-être que ce type-là a très mal aux dents, quoi. Enfin, ou il a un problème intestinal, ou... Vous voyez, je pense que on nous a inculqué le penseur. Donc, c'est le type, très... Mais c'est peut-être pas ça. Et puis, je le trouve un peu... C'est une ébauche. C'est pas fini, quoi.
Il ne fait pas serein.
Alors là, vos remarques sont très intéressantes et je crois vont tout à fait dans le sens de ce que Rodin a voulu. C'est-à-dire qu'on a effectivement ici un personnage robuste, fort, etc. Peut-être un peu trop pour être honnête, si j'ose dire, d'une certaine manière. Hein. Mais surtout, vous pointez le doigt sur le fait qu'il n'y a peut-être pas tant de sérénité là-dedans. Comme vous dites, il a peut-être mal au ventre, mal aux dents, ou en tout cas, ce penseur-là peut-être pense à des choses qui peuvent être physiques, hein, il a mal aux dents, par exemple, au ventre, hein, mais qui ne sont pas si agréables que ça. C'est-à-dire, ce penseur, il est tourmenté. Hein, mais d'ailleurs, une pensée peut être une pensée tourmentée. Hein. Donc, penseur, en soi, le mot ne veut pas forcément dire, je pense, hein, une pensée sereine. Hein. C'est une pensée, et je crois que vous avez tout à fait raison d'insister là-dessus, une pensée qui est profonde, pour ne pas dire lourde. Hein. Donc il n'y a pas forcément beaucoup de sérénité là-dedans. Je crois que c'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, l'avenir va nous le montrer. Hein. Le penseur, il ne pense pas à des petites fleurs et à des sylphides dans les prés. Hein. C'est vraiment pas l'idée. Hein.
Il ne fait pas très intellectuel. Il ne fait pas très intellectuel.
C'est
mal avec les pensées.
Oui, c'est assez vrai. C'est-à-dire qu'il y a un côté peut-être un peu, entre guillemets, brutal.
Oui, et puis en plus, que la proportion de la tête par rapport à la tête,
elle est petite.
Oui, alors c'est intéressant. Après, il y a quelqu'un qui lève la main de voix. C'est intéressant ce que vous dites, et vous le disiez un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a en effet un côté, pas forcément d'abord très fini, vous le disiez tout à l'heure. On a l'impression qu'il y a un côté un peu ébauche et un peu brut de décoffrage, si j'ose dire. Hein, pas. Et d'autre part, peut-être, sur cette figure qui a l'air si, entre guillemets, académique, ben, ça n'y a pas tant que ça. La tête est peut-être un peu bizarre par rapport au reste du corps. Le corps est un... Oui, la main est bizarre. On a l'impression que les muscles sont hypertrophiés. Regardez-moi ça, par exemple. C'est un peu bizarre, ce qu'on voit par là. Hein. Mais vous vouliez dire quelque chose là-bas, dans le fond?
Oui, ce qui me surprend, c'est que le penseur a une connotation parfois un peu élevée.
Oui.
Comme nuance. Or, au XIXe siècle, on ne faisait pas beaucoup de sport. Les penseurs, les intellectuels ne faisaient pas de sport. Et pour avoir des muscles comme ça, je pense que ce serait plutôt un travailleur, voire un mineur, qui est fatigué, là, après une...
Alors ça c'est ce que vous soulignez là est une notion qui me paraît également très intéressante. C'est-à-dire qu'on est là, décidément, devant un penseur qui ne pense pas sereinement. Hein. Plusieurs d'entre vous l'ont pointé là à l'instant, et c'est tout à fait vrai. On va voir à quel point c'est vrai. Mais vous pointez aussi le fait qu'on n'a peut-être pas là l'image, on va dire, traditionnelle, académique, de la pensée habituelle en Europe occidentale, on va dire, hein. C'est-à-dire celle, effectivement, de l'intellectuel qui n'est pas forcément... Parce qu'il y a quand même des intellectuels plus ou moins sportifs. Hein, bon, mais il est vrai que au XIXe siècle, ces deux images qui ne coïncident pas forcément l'une et l'autre. Vous avez, je pense, raison de le dire. Donc, quelque part, il y a un côté un peu homme, un peu dans sa naturalité un peu brutale, hein, presque sauvage, enfin, mais qui en même temps réfléchit. Et ça, effectivement, je crois que c'est important. C'est-à-dire qu'on a dans une œuvre comme ça quelque chose d'un peu ambigu, d'un peu dichotomique, c'est-à-dire à la fois un personnage un peu, encore une fois, brutal d'une certaine manière, hein, espèce de personnage avec cette musculature hypertrophiée, regardez un peu les genoux, c'est complètement boursouflé. Hein. Et puis en même temps, il pense. C'est-à-dire que vraiment, on pourrait dire, pour aller un peu vite, hein, que c'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Quoi. C'est une espèce de personnage massif, à la limite de la, entre guillemets, normalité, qui est presque animal, et en même temps, il pense. Et c'est vraiment bizarre, parce que comment est-ce que, par exemple, dans les siècles antérieurs, on représentait l'idée de la pensée? Comment est-ce que, je ne sais pas, au XVIIIe ou au XVIIe siècle, quand on avait en Occident, hein, on va sentir l'Occident, à représenter l'idée, j'allais dire un peu allégorique de la pensée, hein, on présentait ça éventuellement comment? Il y a plusieurs manières, certainement, mais je ne sais pas, est-ce que vous pensez à certaines?
En sculpture?
Par exemple, ou en peinture, ou dans les beaux-arts, dirons-nous.
Souvent, ils étaient entourés d'objets qui montraient leur savoir.
Oui. Et si vous êtes un peintre, un sculpteur, une peintresse, une sculptrice, hein, et que vous voulez représenter une allégorie de la pensée, vous allez donc montrer un personnage avec des instruments qui évoquent son intellect. Hein. Est-ce que vous auriez encore d'autres possibilités, d'autres...
Avec entouré d'autres penseurs reconnaissables.
Oui, oui. On pense par exemple, vous savez, la fameuse composition de Raphaël qui s'appelle l'école d'Athènes. Hein, vous connaissez peut-être ça. Hein.
Parnasse.
Voilà, les idées du Parnasse, Apollon avec les muses, par exemple. Hein. Vous savez, il y a aussi une divinité dans la mythologie gréco-romaine qui est Athéna, hein, qui est la divinité de la pensée, de l'intellect. Athéna est toujours représentée souvent avec une chouette, hein, qui est l'attribut de cette déesse penseuse et intellectuelle. Alors que là, effectivement, on est dans quelque chose qui est très différent de l'idée habituelle. C'est-à-dire que là, Rodin nous propose une vision de la pensée qui tranche vraiment avec ce qu'on a habituellement. Vous voyez ? Effectivement. Et je crois que ce que vous avez pointé, espèce de dichotomie entre la force brute de ce espèce d'animal humain, d'une part, mais qui en même temps pense, c'est-à-dire est malgré tout plongé dans des pensées subtiles, espèce de dichotomie-là, étonne, il y a beaucoup étonné. Hein. Mais c'est cela même aussi qui a fait l'extrême popularité de cette œuvre. Hein. Il faut savoir que dès sa présentation en France, je crois que c'était en 1902, si ma mémoire est bonne, je vais la voir là dans mes petites notes, l'œuvre est tout de suite devenue extraordinairement célèbre. Non, c'était en 1904, pardonnez-moi. L'œuvre est devenue extrêmement célèbre et a joué une popularité absolument énorme.
On dirait qu'il réfléchit à un échec.
Oui.
Comme si c'est Atlas qui laissait tomber le monde.
Oui, décidément, vous repointez, vous soulignez, et vous avez raison, le fait que ce n'est pas une œuvre sereine. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui recouche comme ça tranquillement dans la campagne. On sent que c'est du lourd, entre guillemets. Hein. Donc je crois que, tout ce que vous avez dit là est très important, parce que ça montre que le penseur de Rodin, c'est pas décidément une vision un peu légère, d'une petite pensée comme ça, qu'on a un beau matin en se rendant à la campagne, qu'on voit un papillon qui volette. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus fondamental, de beaucoup plus philosophique, de beaucoup plus profond. Et pour montrer de manière un peu universelle cette sorte d'allégorie moderne de la pensée, plutôt que de nous présenter une Minerve ou de nous présenter je ne sais quel philosophe, hein, ce qui aurait été le propos d'un sculpteur ou d'une peintresse des temps plus anciens, là il nous propose une espèce d'animal humain, un peu brut, hein, qui pourtant réfléchit, pense. Vous avez bien souligné, je crois, ces éléments-là. Bien. Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire sur cette sculpture?
Est-ce qu'il y a pu avoir un souci de provoquer un peu, en la faisant comme ça?
Ben, je pense que... Oui. Alors, je sais pas si Rodin, quand il a fait ça, s'est dit, en gros, je vais essayer de provoquer la société. Et en même temps, un artiste comme lui savait bien que ses travaux étaient par eux-mêmes assez novateur, on va dire, hein, donc provoquant. Et Rodin, finalement, vous savez, finalement, il a l'ambiguïté de ces artistes, à la fois démiurges, hein, qui finalement sortent des idées nouvelles et qui révolutionnent l'art, hein, et en même temps, il est un peu dans le moule, Rodin, hein, parce qu'on verra tout à l'heure, mais ce que vous voyez là est aussi plus ou moins le fruit d'une commande. Et Rodin est quelqu'un qui, en son temps, a eu des commandes. Ce n'est pas un artiste maudit qui est dans son atelier, que personne ne va voir, et qui se suicide à 15 ans. Hein. Rodin, c'est un artiste qui, quelque part, est assez installé. Hein. Donc, je crois qu'il y a un peu les deux. Finalement, Rodin, il est ambigu comme son penseur.
Mais avant, qu'est-ce qu'il avait fait, peu de temps avant?
Vous pensez à quelque chose de spécial?
Non, pas du tout, parce que je ne sais pas.
Oui, oh, bah, il avait fait plein de choses.
Hein. Est-ce que c'était dans la même veine ou serait-il...
Alors, oui, non. Quand il fait le penseur, vous voyez que cette œuvre, il l'a fait quand il a une quarantaine d'années. Hein. Donc, on est déjà là avec un Rodin qui est mûr, hein, et qui a déjà une partie de sa production réalisée. Mais pour répondre à votre question, bah, vous allez voir, le suite de l'atelier va partiellement y répondre.
En tout cas, il y a une forme d'académisme quand même encore dans ce... Parce que
c'est
le
nu, faux.
Le rocher, ouais, ouais, sur lequel il est assis,
ouais,
il y a des conventions.
C'est ça qui est un peu déroutant. C'est-à-dire, c'est une œuvre qui, à la fois, ouais, s'inscrit dans une tradition, ouais, le nu, l'académie, etc. En même temps, la manière de faire, elle, est tout à fait novatrice. Ouais. Ça représente quelqu'un qui est dans des pensées. Ça n'a quand même pas l'air d'être un imbécile complètement idiot, si vous voulez, hein. Et en même temps, il a un côté brut épaisse. Je crois que vous avez bien souligné tout ce que vous venez de dire, hein, une espèce d'entre-deux de cette œuvre qui fait que ce n'est pas une œuvre simple. Hein. Décidément, ce n'est pas un bronzeur comme ça. C'est une œuvre qui est compliquée, une espèce d'entre-deux. C'est académique et en même temps, c'est novateur. Ça dit des choses profondes, alors même que c'est un personnage qui a l'air un peu primaire, on va dire. Hein. Donc je crois que vous soulignez bien là toute une série de choses qui vont nous aider dans la suite des événements.
On a l'impression qu'il continue, il va tomber en avant parce que l'axe des masses.
Oui. Alors ça, c'est intéressant aussi parce que là. Oui. Là, vous parlez de la manière de composer.
Physique.
Tout à fait. Là, vous parlez de la manière de composer. Votre remarque, elle est intéressante parce que c'est quelque chose, c'est une sorte de permanence chez Rodin qu'on va retrouver. Hein. Rodin, c'est quelqu'un qui aime beaucoup remettre en cause, mais quelquefois de manière. Alors, quelquefois de manière très radicale, hein, quelquefois de manière juste un peu gênante, quoi, les choses établies. Effectivement, on a un peu l'impression que ce personnage, il est assis, mais qu'il peut tomber dans un équilibre instable, finalement. Hein. Et ça, c'est aussi très Rodin. C'est-à-dire que Rodin, il ne nous laisse pas respirer, quoi, il ne nous laisse pas souffler. Et effectivement, on se dit, mais à la fois, il est assis, pesant sur son rocher, et en même temps, il y a une sorte de risque, enfin. Ouais. Est-ce qu'on continue ou est-ce que vous avez encore des choses que vous aimeriez dire sur cette œuvre-là, telle quelle? Oui. Là, grosso modo, alors je pourrais te le dire, mais je crois que ça fait l'exemplaire du musée Rodin doit faire 70 cm. Ça doit être à peu près de cette taille-là. À peu près. Mais de toute façon, comme à son habitude, Rodin en a fait des agrandissements, des plus petits, des plus hauts. Voilà. Et puis, de la même manière, vous en verrez dans différentes matières. Hein. Vous en verrez en plâtre, vous en verrez en bronze, vous en verrez sans doute en marbre aussi. Enfin, voilà.
Et l'œuvre initiale est en plâtre ou en terre?
Alors, l'œuvre initiale, de toute façon, est une œuvre qui a été... Bonsoir. Qui a été... Tenez, vous pouvez vous inscrire. Voilà. C'est à 5h. Non, oui, c'est à 5h, en fait.
Mais c'était 5h?
C'est 5h. Je vous laisse marquer là.
Je m'en vais. C'est à moins 4.
Oui, oh, ben, c'est pas un drame. Voilà. Oui, je ne sais plus ce qu'on disait.
L'œuvre initiale.
Oui, c'est ça. Alors, de toute façon, l'œuvre initiale.
Terre ou plâtre.
Alors, peut-être même autre chose. Ah. Justement, est-ce que vous pouvez me dire. En fait, c'est plutôt à moi de vous poser la question. Là. c'est la raison de ces ateliers. Hein. Comment est-ce qu'on en vient à avoir un bronze comme ça? Est-ce que, sans aller dans les détails, hein, est-ce que vous pourriez me décrire très linéairement, hein, le processus pour un artiste de création d'une œuvre comme ça? Ça commence par quoi?
Une matrice.
Voilà. Alors, la matrice, l'idée première, on l'a fait en quoi?
En terre.
C'est plutôt en terre. Je précise que souvent, avant même de faire une esquisse en terre, souvent on commence par dessiner.
Un dessin.
On fait un dessin, puis on voit un peu ce qu'on fait. Ensuite, on fait effectivement souvent une esquisse en terre.
De petite dimension.
De petite dimension.
Ensuite.
Ensuite, on augmente, on la fait à la taille.
Oui, ensuite on la fait à la taille, effectivement.
Plat.
Oui.
On fait un moule en plat.
Oui.
Et puis on va couler de la cire dans ce moule.
Là, ça doit
être. Si on fait à la cire perdue.
Cire perdue, oui.
Ça doit être rudement difficile à mouler, à démouler, à couler.
Oui, parce que. Et encore, on va voir bien pire. Hein.
Il n'y a pas de dépouille.
Absolument. Alors, en gros, hein, je rappelle, hein, pour une œuvre comme ça, l'artiste commence effectivement par, souvent, pas toujours, hein, mais il y a des sculpteurs qui commencent à crayonner. Hein, bon. Ensuite, effectivement, ils font une première petite esquisse en terre cuite. Après, on va passer à une version en plâtre. Peut-être d'ailleurs que la petite esquisse en terre cuite va être ensuite agrandie dans une grande œuvre en terre cuite, mais qui est généralement fragile et qu'on ne va pas garder. Hein. Souvent, l'œuvre première en terre est fragile, n'est pas née à être gardée, donc on la moule en plâtre, et on va donc passer d'une œuvre en terre cuite à une œuvre en plâtre. Et c'est l'œuvre en plâtre qui va être moulée, qui va donc servir à faire un moule pour qu'ensuite on fasse l'exemplaire en bronze. Hein. Voilà, de manière très, très, très simple, si vous voulez. Je dis ça parce que très souvent, quand on voit des plâtres dans les musées, on se dit « ouais, le plâtre, c'est pas bien », puis on regarde plutôt le bronze ou le marbre qui est à côté. Alors, on n'a pas tort de regarder le bronze et le marbre. Mais il faut savoir que, généralement, l'œuvre vraiment originale, c'est plutôt soit l'œuvre en terre cuite. Alors, souvent, il y a des petites esquisses en terre cuite qui sont tout à fait originales, mais les grandes statues en terre cuite qui étaient la base pour faire des moulages en plâtre, elles ont souvent disparu, mais les plâtres qu'on moulait d'après l'esquisse grand format en terre cuite étaient souvent également reprises par l'artiste qui revoyait un œil, reprenait une main, que sais-je encore. Donc ces éléments en plâtre sont généralement des éléments originaux tout à fait fondamentaux, ceux vraiment sur lesquels l'artiste a travaillé. Donc ce n'est pas parce que c'est en plâtre que c'est moins bien qu'une œuvre en bronze ou en marbre, vous voyez ce que je veux dire? Parce que souvent, l'œuvre en plâtre était ensuite confiée à des fondeurs. Alors après, c'est les fondeurs qui faisaient l'œuvre, hein, techniquement, si vous voulez. Les fondeurs, ils n'avaient rien à inventer, l'œuvre était faite. Il s'agissait de la traduire en bronze. Alors bien sûr, le sculpteur essayait de voir la patine qui lui convenait, quelquefois reprenait le bronze lui-même, mais c'est vraiment des praticiens qui moulaient l'œuvre en plâtre sur lequel le sculpteur avait travaillé pour en faire un bronze. Et c'est la même chose avec le marbre. Très souvent, en effet, et Rodin l'a fait X fois, hein. Rodin faisait une œuvre, il faisait donc la petite esquisse en terre cuite, la plus grande en terre aussi, il la copiait en plâtre, et puis après il demandait à des sculpteurs sur marbre de recopier en marbre l'original en plâtre. Hein. Et ces praticiens-là traduisaient dans la matière dure, le marbre, l'œuvre que Rodin avait créée en plâtre. Camille Claudel a été une praticienne de Rodin, par exemple, hein. C'est elle qui prenait les œuvres en plâtre et qui les traduisait en marbre, d'accord ? Donc souvent, quand on voit un marbre de Rodin, il faudra que ce n'est pas du tout Rodin qui l'a taillé, hein. C'est des praticiens qui l'ont fait d'après le plâtre de Rodin que lui, Rodin, a fait. Vous voyez ce que je veux dire ?
Oui.
C'est bon, ça ? Oui. Alors, on va peut-être aller un petit peu plus loin, ça vous va ?
On suit.
Bien. Alors, je voudrais vous montrer ça. Alors là, pourquoi ? Pourquoi est-ce que je vous montre ça et qu'est-ce que c'est ? Une croix.
C'est un bas-relief.
Un bas-relief. Là, nous sommes effectivement devant un bas-relief. Peut-être en quelle matière ?
En pierre.
En pierre.
Oui, calcaire.
Pierre calcaire. Un bas-relief en pierre calcaire. Ouais.
Plâtre.
Bon, un bas-relief en pierre ou en plâtre. Une idée de la taille, peut-être ? Comme ça, vu de nez. Hein. Pas très grand. Oui, c'est pas très grand. Enfin, pourquoi je vous montre ça ? Qu'est-ce que vous m'avez dit que donc, ça représentait une croix ? Est-ce que vous avez d'autres idées ? On voit les personnages. On devine les personnages. La fameuse porte ? Ah, la fameuse porte de Rodin. Donc ce serait quoi ? Ce serait une porte ?
Un morceau, un élément.
Un élément d'une porte ? Vous en pensez quoi ? Pas grand-chose. Pas très lisible. Ah, c'est une esquisse. Alors évidemment, les esquisses, c'est moyennement visible. Quelque chose d'un peu médiéval, moyenâgeux ? Ouais, intéressant. quelque chose d'un peu médiéval ou médiévisant,
oui,
ou moyenâgeux, comme on dit. Religieux, peut-être, à cause de cette sorte de croix.
Oui.
Et alors, une stèle. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée de porte dont vous nous parliez, là? Ça vous inspire? Vous, oui.
Mais...
Ah, porte d'église. Alors, si on part sur... Oui, à cause de la croix, donc. Hein,
la croix, une porte... représentée.
Oui. Voilà, c'est-à-dire que on aurait... Ce qui vous donne l'idée d'une... Alors, d'abord, qu'est-ce qui vous donne l'idée d'une porte? L'encadrement. Donc, on aurait l'encadrement de la porte. Ça, ce serait quoi, alors?
Les vantaux.
Les vantaux de la porte. Ça, ce serait quoi?
C'est une représentation...
La représentation d'une
porte.
Voilà, ce serait la représentation esquissée d'une porte où on a l'encadrement de la porte, les deux vantaux, et puis alors cette partie supérieure, ce serait quoi ça?
Le linteau.
Le linteau, une sorte de linteau de la porte. Linteau ou tympan, je ne sais pas très bien comment dire. Hein. Ouais. Ok, donc on aurait effectivement la représentation esquissée sur un relief en plâtre ou en pierre, hein, de, je sais pas, 30, 40, 50 cm. D'une porte avec son encadrement, ses vantaux, son linteau, son tympan, une porte qui semble avoir un aspect un peu religieux. Hein, vous remarquez cette idée de croix. Hein, et vous remarquez aussi qu'il y avait visiblement des tas de personnages qui grouillaient tout autour. Hein. Bien. Ça vous inspire autre chose, ça?
Il n'y a pas une sorte de flamme en haut, enfin.
Une flamme en haut?
Oui, sinon...
Ça
non, voilà, au milieu, au centre.
Ça
oui, c'est quoi cette affaire-là?
Eh bien, je vous demande.
Un personnage.
Moi, j'avais l'impression que c'était un personnage qui était penché,
oui,
sur la croix.
Un personnage qui serait là, en haut, penché sur la croix.
Oui. Et avec sa
main,
qui pense.
Qui pense, ça l'inspire. Donc, ce serait... Ce serait un personnage qui a inspiré Rodin.
Il se tient la tête avec la même main.
Donc on aurait là-haut un personnage qui pense et qui aurait inspiré Rodin. Alors, qui est-ce qui aurait fait cette sculpture-là, cette porte que vous voyez là? Car c'est une porte, effectivement.
Rodin.
Rodin, voilà. En fait, c'est Rodin lui-même. C'est-à-dire, vous avez là une œuvre faite par Rodin, qui représente une porte avec, effectivement, vous avez bien vu, son encadrement, ses vantaux, espèce de linteau ou de tympan supérieur, avec des tas de personnages partout, dont en haut, sur le tympan linteau, un personnage qui, effectivement, a l'air de penser, de réfléchir. Ça vous rappelle quelqu'un?
Ben oui.
C'est-à-dire?
Le penseur.
Ce personnage qui est là-haut nous rappelle furieusement le penseur que nous venons de voir. Non?
Furieusement.
Alors, je vous montre la vie suivante. Pardon.
Il est antérieur.
À votre avis.
Ah, c'est la question que je me posais.
Donc on aurait.
Quel était le propos de Rodin avec cette porte?
Ah voilà. Alors. Deux choses. Hein. Vous proposez que ce soit une œuvre antérieure au penseur. Hein. Autrement dit, Rodin aurait fait ça, aurait envisagé au-dessus de cette sorte de croix un bonhomme en train de penser, et il l'aurait ensuite fait. Voilà, tout seul, et c'est la sculpture qu'on a vue après. Enfin, ça vous va, ça? C'est une hypothèse, en tout cas.
Oui, c'est une hypothèse.
Bien. Alors, l'autre question était de dire. Dans quel contexte Rodin a fait ça, hein, c'est ce que vous disiez.
Qui est là? Une commande.
Pourquoi une commande?
Un fragment d'une idée.
Oui, un fragment d'une œuvre plus importante.
Un fragment d'une œuvre plus importante. Donc là, il y a deux choses qui ont été dites. Hein. Un, on n'aurait là qu'un fragment d'une œuvre plus conséquente, plus importante. Et d'autres disaient, enfin j'ai entendu le mot commande, hein, quelqu'un l'a dit. Mm-hmm. Hein. Donc l'un d'ailleurs peut aller avec l'autre. Ça peut être une commande qui n'est que là. Le fragment de la commande plus large. Hein. Ok? Bien. Est-ce que ça vous inspire encore, ça? Non? Non, pas plus.
On voit très normal les
personnages. Eh oui, une esquisse, c'est une esquisse.
C'est autre chose.
Non, c'est la même chose.
C'est la même chose.
C'est la même chose. Quelle est la différence entre ça et la pièce précédente?
C'est plus élaboré.
C'est beaucoup plus élaboré.
Cette fois-ci, c'est en
plâtre.
Alors, cette fois-ci, c'est en plâtre.
Donc, la haute bosse, c'est beaucoup plus étendu.
Le relief, ça sert à faire un bout.
Donc on a là effectivement une œuvre qui nous rappelle la précédente, sauf qu'elle est plus élaborée. Est-ce qu'elle est que plus élaborée d'ailleurs? Enfin, ça fait pas.
Non, mais il y a plus de profondeur.
Oui.
On voit.
Elle est aboutie. Puis là, la taille, c'est quoi à peu près?
C'est plus un bas-relief.
Voilà. C'est plus un bas-relief. Là, vraiment, les parties hautes, c'est carrément un haut-relief ou même des rondes bosses plutôt. Et puis là, vous avez une idée de la taille à peu près? Pardon? Une ronde bosse est une œuvre qui fait qu'on peut la regarder de tous les côtés. Hein. Un bas-relief, les côtés de la porte, là, ce sont des reliefs. Hein. Plutôt, on va dire, des bas-reliefs. Un bas-relief, c'est quand le relief ne sort pas beaucoup du bloc. Quand ça sort beaucoup, c'est un haut-relief. Quand ça ne sort pas beaucoup, c'est un bas-relief. C'est bon, ça, pour vous? Et la ronde bosse, c'est ce que vous avez en haut. En haut sont des rondes bosses. C'est-à-dire, si vous allez derrière, vous voyez le dos des personnages. Alors que si vous allez derrière ça, vous allez voir que. Enfin, vous allez voir rien. Vous allez voir un bloc plat. Vous voyez ce que je dis? Donc là, en sculpture, une des grosses différences, c'est le relief et ce qu'on appelle la bosse. Le relief, c'est quelque chose qui se voit que d'un côté. Et vous voyez en relief, plus ou moins fort, plus ou moins pas fort, plus ou moins détaché, plus ou moins pas détaché. Donc c'est un bas-relief quand il est très plat ou un haut-relief quand il est très dégagé, très détaché. Ça sont des reliefs. Et si vous allez à l'arrière d'un relief, vous voyez simplement un bloc droit, sans rien. Par contre, une ronde bosse, c'est une œuvre qui est sculptée de tous les côtés. Vous pouvez l'avoir de derrière, de devant ou des côtés. Elle est sculptée de côté. C'est une ronde bosse. Hein. Voilà.
Donc là, tombeau.
Pardon ?
On dirait un tombeau.
Un côté tombeau, un peu. Ouais.
Mais c'est très grand.
Alors c'est très grand. Vous voyez ça à peu près quelle taille? Oui, ça fait à peu près 5 mètres de haut. Hein. Alors je ne sais pas la dimension totale, vous voyez les portes de chaque côté. Hein. C'est quelque chose qui fait à peu près 5 mètres de haut, peut-être un peu plus. Enfin c'est vraiment très grand, très monumental. Hein. Donc là on est après l'esquisse, devant l'œuvre en plâtre, hein, beaucoup plus élaborée. Et c'est elle qui effectivement sert de modèle à l'œuvre en bronze que voilà. Okay.
La porte de l'enfer.
Donc, ce que vous avez là, c'est effectivement la porte de l'enfer. Certains ou certains d'entre vous parlaient tout à l'heure de quelque chose de religieux, d'autres de quelque chose de tombal ou de funéraire. Ben, vous étiez les uns et les autres, les unes et les autres, dans le vrai. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas tout à fait devant une porte d'église, ni devant une porte de tombeau. Mais il s'agit effectivement d'une œuvre très très célèbre de Rodin, et même fondamentale, qui s'appelle « La porte de l'enfer ». Donc ce que vous voyez là, c'est la porte de l'enfer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de porte de l'enfer? C'est quoi ça?
C'est une commande de...
Moi je vois le paradis en bas,
oui.
Terrestre.
Oui.
Ensuite, le penseur, pour moi, ça a toujours été, enfin, ça a été depuis que je le vois tout à l'heure, c'est Adam,
oui.
Qui a fait une bêtise.
Oui.
Et en haut, c'est le Christ qui vient réparer la bêtise.
Donc, le paradis, par là,
voilà, paradis terrestre.
Adam qui a fait la bourde, et là-haut, le Christ, la Sainte Trinité, finalement, oui. Certainement. Ils sont trois, une sorte de Trinité, c'est ça?
C'est un rapport avec Dante.
Un rapport avec Dante. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce rapport avec Dante?
L'enfer de Dante.
Oui, l'enfer de Dante. Alors, mais qu'est-ce que c'est? Parce que vous savez, moi, il faut tout me dire, autrement, je ne percute pas.
C'est une œuvre littéraire.
Alors,
c'est une œuvre littéraire.
Oui. D'abord, Dante, c'est qui?
C'est un
écrivain. Oui. Italien, quelle période, en gros, hein? Pardon.
300.
Voilà, c'est ça. Il est à cheval sur la fin du XIIIe et le début du XIVe siècle. Hein.
Mais je crois bien que c'est la première fois qu'il est écrit en italien. C'est la première œuvre
officiel en italien.
Oui, c'est exact. Oui, c'est vrai, j'avais oublié ça. Vous avez tout à fait. C'est ce qu'on dit en tout cas. C'est bon. Ouais, ouais. Important. Oui, donc Dante est effectivement un écrivain italien, à cheval sur la fin 13e et le début du 14e siècle, et il a écrit effectivement cette œuvre qui intègre notamment l'enfer, mais ce texte sur l'enfer, voilà, ce texte sur l'enfer appartient à un texte plus large qui s'appelle comment ?
La Divine Comédie.
Hein. Donc Dante écrit la Divine Comédie au début du 14e siècle. Et la Divine Comédie est composée de quoi ? De manière très simple.
L'enfer,
le purgatoire et le paradis.
C'est une montée vers la spiritualité, vers Dieu.
C'est ça. C'est-à-dire que dans la Divine Comédie, Dante propose en trois chapitres l'enfer, le purgatoire et le paradis, une sorte de montée chromatique vers Dieu, effectivement. On part des tréfonds de l'enfer et on arrive au paradis. Sorte de voyage initiatique que fait Dante, accompagné au départ d'ailleurs d'une sorte de poète savant antique, Virgile. Après, il sera accompagné de Laure. Laure ou Béatrice soudain.
Béatrice.
Laure, c'est Pétrarque. Je vous disais, il y a un problème. De Béatrice. Et donc, il va traverser l'enfer, le purgatoire et le paradis avec en compagnie de ces personnages, d'abord l'un puis l'autre, évidemment, c'est une sorte de montée céleste, d'une certaine manière. Voilà. Donc là, on a une œuvre évidemment, qui s'appelle La Porte de l'Enfer, donc qui correspondrait à la première partie, en fait, de cette œuvre de Dante. Parfait. Alors, notre penseur, vous le reconnaissez.
Oui.
Il n'y a pas de problème. Voilà, il est là-haut, vous le voyez bien. Hein. Alors, qu'est-ce que vous suggère le fait que tout à l'heure, je vous ai montré cette œuvre qu'on appelle le penseur de Rodin, bon, d'accord, et qui s'appelle comme ça, et tout le monde l'a appelé le penseur, et Rodin lui-même avait idée ce choix de titre, parfait. Et puis d'un autre côté, là, je vous montre les portes de l'enfer, et hop, il y a encore le penseur dedans. Alors, qu'est-ce que, je sais pas, vous en pensez quoi ? Moi, ça me trouble un peu. Quoi, on est là devant une œuvre, d'un moment le penseur, de l'autre je vous montre les portes de l'enfer, la porte de l'enfer, il y a des centaines de personnages. Qu'est-ce qui se passe là ? On passe d'une œuvre où il y a un bonhomme, le penseur, et là, la porte de l'enfer, où il y en a plus de 200. C'est quoi ça ? On passe d'une œuvre avec un personnage unique à une autre où il y en a plus de 200.
Est-ce que celle-ci, elle est postérieure ?
Alors, celle-là, effectivement, est postérieure, puisque, effectivement, le penseur a été mis dedans. Hein. Mais qu'est-ce que ça vous suggère de l'attitude artistique de Rodin, ça ? Pardon ? Qu'est-ce que vous entendez par opportunisme ?
Le penseur, ça a bien marché, il la rajoute dans
sa... Ah ! Alors, non, parce que, vous savez, le penseur... Il a bien marché quand on l'a exposé en 1904.
Oui, c'est beaucoup plus tard.
Mais c'est beaucoup plus tard. Jusque-là, avant 1904, et encore, il a exposé pour la première fois à Londres, en 1904, et après à Paris. Mais il avait déjà placé le rapport de l'enfer, sur laquelle il commence à travailler dès 1880.
Si on suit Dante, dans l'enfer de Dante, il y a des personnages mythologiques qui sont... qui médite et qui en fait, converse avec les âmes, les empêche de passer, les critiques.
Ah, ça cause l'enfer de Dante.
Ça cause beaucoup.
Oui, ça cogite. On comprend qu'il y a un penseur au-dessus de tout ça, effectivement. Oui. Oui.
Le penseur serait une esquisse de ce qu'il avait en tête pour mettre sur sa porte.
Alors, ça, c'est une option. Il y en a une autre qui serait dans l'autre sens.
Oui, dans l'autre sens.
Hein, et alors, c'est quoi dans l'autre sens ?
Il a extrait ce personnage et il en a fait le penseur. Mais voilà. Au départ, c'est pas un penseur. Là.
Alors, ça, ce que vous venez de dire est important. C'est-à-dire que, d'abord, il ne s'agit pas, donc, pour Rodin, de flanquer sur sa porte une œuvre qui, populairement, a très bien marché. Et qui met là en se disant, puisque mon œuvre toute seule a bien marché, je la mets là-dedans, ma porte de l'enfer, ça a marché aussi. Parce qu'il la crée avant. Hein. C'est après que le penseur seul est présenté au public en 1904, c'est-à-dire presque 25 ans après le début de la création de la Porte de l'Enfer. Donc vous voyez, donc ça non. Hein. Par contre, vous avez pointé une autre chose, c'est que soit Rodin a fait, à partir de 1880, hein, vous avez vu là, la première esquisse de la Porte de l'Enfer, hein, soit il a fait le penseur pour la Porte de l'Enfer, il l'a mis dedans, il l'a créé autour, puis en se disant après, tiens, mon penseur, il est pas mal, je vais en faire une sculpture à part. C'est pour ça qu'on le trouve à la fois dans la Porte de l'Enfer, dont il fait partie intégrante, mais en sculpture à part, parce qu'à part, ça marche aussi. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Soit il a fait le penseur à part, et puis il s'est dit, tiens, finalement, dans ma Porte de l'Enfer, ce serait pas mal, et il l'a mis dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, à vrai dire, les deux seraient possibles, parce que chez Rodin, il y a les deux choses, justement. C'est-à-dire que chez Rodin, si vous voulez, il y a toute une série d'œuvres, on va voir dans la Porte de l'Enfer, hein, une série d'œuvres que Rodin avait fait, parce que Rodin n'a pas fait non plus, à partir de 1880, que la Porte de l'Enfer. Hein. Ça, c'est une commande, on y reviendra tout à l'heure. Hein. Mais à partir de 80, il ne va pas faire que la Porte de l'Enfer. Il va faire d'autres œuvres à côté. Et de temps en temps, il y a des œuvres, on disait, tiens, cette œuvre, elle pourrait peut-être aller dans la Porte de l'Enfer. Donc il a gardé certaines œuvres isolées, mais il a aussi quelquefois décidé, ces œuvres isolées, de, j'allais dire, les copier, de les mettre dans la Porte de l'Enfer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a des œuvres, et plein, hein, dont on trouve parfois des représentations isolées ou bien intégrées à la Porte de l'Enfer. Puis quelquefois, il y a des œuvres qu'il a fait en faisant la Porte de l'Enfer, hein, et puis il s'est dit, oh ben tiens, ce groupe qui est là, il est pas mal, je vais en faire quelque chose d'isolé. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a les deux choses. Autrement dit, cette Porte de l'Enfer, elle agit comment dans l'œuvre de Rodin?
C'est un carnet de vocabulaire.
C'est tout ça. C'est tout ça, c'est une sorte de carnet d'esquisses, de creuset, de vivier, un large vivier dans lequel il pêche, ou dans lequel il rajoute. Les Portes de l'Enfer, c'est ça. La Porte de l'Enfer, c'est vraiment la grande œuvre testamentaire, pourrait-on dire, de Rodin. C'est vraiment un peu le pivot de toute son œuvre, parce que là-dedans, et on va faire un petit exercice après, hein, on va voir des quantités de choses qui sont justement des œuvres qu'après on va retrouver disséminées, isolées dans l'œuvre de Rodin. Donc vraiment, la Porte de l'Enfer, c'est un peu une des clés du travail de Rodin. Quand on a compris la Porte de l'Enfer, on a la clé pour comprendre l'œuvre de Rodin. C'est vraiment fondamental. Alors, je vais peut-être quand même passer... que le temps passe, lui aussi. Hein. Alors, je vous montre simplement les mêmes œuvres, mais avec les cartels. Hein. Donc ça, c'est la maquette en plâtre. Hein. C'était pas de la pierre, hein. C'était bien du plâtre. C'est pas la première, mais c'est une des premières maquettes de la Porte de l'Enfer. C'est donc ce qu'on pourrait appeler le chef modèle en plâtre, hein, qui est aujourd'hui au musée d'Orsay à Paris. Et puis ça, c'est donc un des tirages en bronze. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Hein. Mais ça, c'est celui, c'est le premier qui appartient au musée Rodin à Paris. OK ? Je voulais vous montrer ça.
Ah, ben oui.
Alors, pourquoi je vous montre ça ? D'abord, c'est quoi ça ? Alors, on parle de sculpture. Là, je vous montre une peinture. Bien. Vous savez que j'aime bien brouiller.
C'est
Dante et Virgile aux enfers. Bien. C'est de qui, ça ?
De la Croix.
Alors, pourquoi est-ce que je vous montre cette œuvre de Delacroix ?
Ah, c'est les portraits de la date. La date peut jouer ?
Peut-être. C'est quelle date ?
Justement. Ben oui, c'est par là, c'est
18. Non, ça, c'est
antérieur. Antérieur, c'est par là. Je rappelle que la Porte de l'Enfer, Rodin commence à y travailler, parce que c'est une commande, j'y reviendrai tout à l'heure, qui lui est faite en 1880. Vous avez vu que dès 1880, il commençait à y travailler. La première maquette que je vous ai montrée date de 80-81. Voilà. Et on a même des maquettes un peu antérieures. Ça, c'est donc une œuvre de Delacroix, qu'on appelle la barque de Dante. On a Dante et Virgile qui sont sur une barque au milieu d'un fleuve infernal, une sorte de Styx bouillonnant, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qui fait que je vous montre ça maintenant ? Vous parliez d'histoire de date.
Oui, mais je ne sais pas, c'est déjà
ça, vous situeriez ça quand ?
Ça se fait au champ de
1850-60. Donc avant. OK ? Donc je vous montre ça, peut-être pas trop pour des problèmes de date, puisqu'on est avant. Alors pourquoi je vous montre ça ?
Parce Il y a cette musculation qui
est... Ça a pu inspirer Rodin, oui.
Il y a toute la musculation des corps qui est comparable à...
Oui. Qui rappelle quoi, d'ailleurs? Qui rappelle qui? Ces bons corps très musculeux qui passionnent visiblement Delacroix, mais qui vont passionner Rodin aussi. Est-ce que vous pensez à un sculpteur ou un peintre? Pardon?
Michel-Ange.
Vous savez que Michel-Ange, c'est vraiment quelqu'un qui a traumatisé Rodin, si j'ose dire. Hein. Vous savez, Michel-Ange, rappelez-vous les esclaves du Louvre, hein, je ne vais pas les faire, hein, mais vous connaissez ces figures-là, hein, qui sont contournées dans tous les sens, avec des muscles extraordinaires. Ce côté pas trop fini que vous évoquiez tout à l'heure pour le penseur, hein, voilà qui existe chez Rodin, parce que ça existe chez Michel-Ange. Et Michel-Ange est un peintre et un sculpteur qui est aussi beaucoup passionné, quelqu'un comme Delacroix. Donc, je vous montre ça, effectivement, de ce fait-là. Pas trop pour les questions de date, parce que là, on n'est pas, d'ailleurs, en 1850, ni même en 1860, on est en 1822. Très tôt. Hein. Par contre, je vous montre ça plutôt pour une autre raison.
Est-ce que le personnage de gauche serait pas un peu pensif?
Ah, celui-là, une sorte de penseur. Oui, je commence à lui dire. Alors, il n'est pas très penseur, il est en train de manger, là-bas. Donc, c'est un penseur affamé. Voilà. C'est un penseur affamé. Mais. Oui, ils sont en train de se dévorer. Enfin, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Mais je vous montrais ça plutôt pour une raison iconographique. C'est-à-dire. On a là un thème qui est toujours celui de Dante. Quoi. Et qu'est-ce que ça vous suggère, ça? Parce que c'est la barque de Dante. Donc, et on est en 1122. Rodin, 1180, La Porte de l'Enfer, d'après Dante. Ça montre quoi? De manière très simple, hein, très évidente. C'est à le dire. Pardon? C'est dans l'air du temps. C'est-à-dire que Dante est vraiment un écrivain qui va tarauder les consciences occidentales au XIXe siècle. Hein. Entre Delacroix et Rodin, entre
plus
le début du siècle.
Toutes les gravures de Gustave Doré,
par exemple.
Qui vont irriguer tout le XIXe.
Absolument. Enfin, énormément d'artistes du XIXe siècle. Vont être fascinés par la Divine Comédie, j'allais dire la comédie humaine, mais c'est d'ailleurs une manière de montrer comment Balzac lui-même, quand il fait la comédie humaine, c'est aussi une sorte de rapport à la Divine Comédie. C'est-à-dire que vraiment tous les artistes et écrivains-là sont passionnés au XIXe siècle par Dante et par la Divine Comédie. Donc là, je voulais vous montrer cet exemple-là, que j'aurais pu vous montrer, effectivement, telle peinture de Gustave Doré, par exemple, hein, mais il y en avait bien d'autres, qui montrent cette espèce d'intérêt très très fort des artistes du XIXe siècle pour Dante et la Divine Comédie. Donc, si vous voulez, Rodin n'est pas quelqu'un qui, à la fin du siècle, soudain découvre un sujet. Il ne fait que reprendre un sujet qui, depuis le début du siècle, est très très travaillé. D'accord? Bien. Voilà donc le petit cartel. Alors, je voulais maintenant, pour poursuivre, qu'on regarde 10 petits détails de La Porte de l'Enfer. Ok ? 10 détails de La Porte de l'Enfer. Là, on va voir le premier, qui se situe là-haut. Alors, on va regarder ce détail d'un peu plus près à travers le plâtre original qui a servi à faire ensuite la fonte en bronze. Bien. Alors, qu'est-ce que vous auriez à dire là ? D'abord, si vous aviez à donner un titre, vous diriez quoi ?
Les
pénitents, la pesanteur.
Les esclaves.
Les esclaves, pas mal.
Beaucoup de souffrance.
La souffrance. Donc, voilà des idées de titre. Hein. On sent que ça rigole pas, si j'ose dire. Qu'est-ce que vous auriez à dire d'autre sur, cette fois, la manière formelle dont Rodin a travaillé ça.
Personnage très musculé, avec une musculature développée,
toujours nu aussi.
Ah voilà, des personnages toujours nus, des musculatures très développées. Hein. On revoit là ce qu'on a vu tout à l'heure pour le penseur, ce goût pour Michel-Ange. Hein, voilà.
Des visages très torturés.
Très torturés.
C'est presque architectural.
il arrête ça sur une horizontale.
Oui, alors il y a, vous avez d'autant de raisons que vous avez remarqué, il a mis ça au-dessus de sa porte comme une sorte de couronnement. Hein. Donc il y a effectivement une manière de remplacer l'architecture par des figures. Ce que vous dites est d'autant plus vrai qu'on va le retrouver d'ailleurs. Oui, c'est juste.
Il y a un étirement anormal
oui.
du personnage de gauche entre la tête et l'épaule.
Oui, oui, absolument. Alors, il y a en effet des déformations tout à fait, je dirais, maîtrisées et voulues hein, de Rodin. Les anomalies que vous avez là sont quand même tout à fait déformées, hein, même si elles sont... Pardon ?
Néanmoins, la position est très académique, très, très équilibrée, avec... Bon, ça se réfère aussi à des personnages classiques tout à fait différents, mais enfin les trois grâces, elles sont présentées comme ça.
Alors, ça fait immanquablement penser évidemment aux trois grâces, hein, on a trois figures féminines. Hein.
Oui, avec le déhanchement, voilà. les genoux par devant. Enfin,
c'est, tout ça me paraît très juste, c'est-à-dire qu'on voit comment Rodin s'instille dans une sorte de tradition plus ou moins académique, d'ailleurs des siècles précédents, pour proposer du nouveau. C'est-à-dire que là, il propose trois grâces, sauf que ce sont des gracieux, des garçons. Hein. Voilà. Et puis, il y a quand même moi deux choses qui me frappent là-dedans.
Ils sont tous ils sont blessés,
ils sont reliés.
Ah oui, on sent que c'est. Ben, on est au-dessus de l'enfer dans lequel ils vont tomber, ils sont des damnés, finalement. Hein. Donc, évidemment, ce que je disais tout à l'heure, ça rigole pas. Quoi. C'est quand même pas marrant.
Mais je ne comprends pas pourquoi ce sont que les cuisses qui ont une sorte de glaive ou d'épée et non pas une autre partie du corps.
Alors, ce que vous voyez là, c'est sans doute des éléments qui ont été mis dans le plat pour des questions de ce qu'on appelle la mise au point. C'est-à-dire quand vous passez, quand vous êtes obligé, par exemple, d'agrandir, quand vous avez une sculpture de cette taille, vous voyez qu'elle fasse le double, vous êtes obligé de faire des mises au point. C'est-à-dire vous prenez toute une série de petites références sur l'œuvre originale et vous allez multiplier ça pour la faire en plus grand.
C'est une échelle.
Pardon ? C'est une échelle. C'est une échelle. Hein. Donc ça, c'est des éléments de mise au point. Donc il y en a qui sont conservés, mais les mises au point n'étaient pas faites pour être gardées, vous voyez ce que je veux dire. Alors quelquefois, on les a encore, quelquefois, elles n'y sont plus. Donc vous avez des éléments de mise au point qui sont encore, d'autres qui n'y sont plus. Mais moi, il y a deux choses qui me frappent.
Les têtes sont rejointes
oui.
et perses.
Hein. Et puis les mains,
en même temps,
les
mains,
oui.
et les mains, pareil.
Justement, à propos des mains, il y a quelque chose quand même.
Il n'y a pas de
mains. Alors,
il n'y a qu'une main.
Ah oui, qu'est-ce qui est passé pour l'autre main ?
C'est un pacte.
Oui, on dirait qu'ils font un pacte.
Oui.
Non, elle peut être sur l'épaule de celui de
gauche. Ou elle doit être sur l'épaule de celui de gauche.
Ben, pas trop, hein.
Non. Mais il n'a pas de main droite.
Ben
il
n'a
pas de main droite. Il peut y avoir une symbolique autour de l'absence de main.
Ben, en fait, il y a, je crois, deux choses à constater. En plus de tout ce que vous avez dit. Hein. La première, c'est que cette figure, c'est la même, mais vue trois fois sous trois angles différents. C'est la même figure. Hein. C'est le même. En gros, il a pris trois fois le même gus, toc, 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 mais en le présentant sous trois angles différents, on a l'impression de trois personnages différents, mais pas du tout, c'est le même. Ça, c'est très Rodin. Hein. C'est-à-dire qu'on prend le même, mais puisque c'est de la ronde bosse, évidemment, ce qu'on voit sur le côté n'est pas pareil que ce qu'on voit sur le blanc. Donc, vous pouvez voir sous différents côtés, on a besoin de voir quelque chose de différent, c'est la même. Ça, c'est la première chose. Trois figures exactement identiques qui mettent sous trois angles différents, ça donne quelque chose de différent. Puis la deuxième chose, c'est qu'effectivement, ce personnage-là, il est complet. Enfin, là, il y a quelque chose qui est brisé. Hein. Mais par contre, les deux personnages de droite, il a carrément enlevé les bras droits. Il n'y a plus de bras droits. Et ça aussi, c'est Rodin. C'est que Rodin, ça ne gêne pas du tout de, j'allais dire, mutiler ses sculptures, entre guillemets. Hein. Vous savez, Rodin, on le voit bien quand on va au musée Rodin à Paris, il avait une collection d'antiques. Et Rodin s'intéressait beaucoup à la sculpture antique, et ça ne gênait pas du tout de voir des sculptures sans bras, avec une tête en moins, une seule jambe, ou pas de jambe du tout, vous voyez ce que je veux dire. Hein. La Vénus de Milo, elle n'a plus de bras, c'est beau quand même, vous voyez ce que je veux dire. Donc l'idée du fragment sculpté n'est pas du tout quelque chose qui gêne Rodin. Représenter des personnages trois fois le même et enlever quelques bras, pourquoi pas. Vous voyez ce que je veux dire. Et alors, je passe, qu'on a encore des petites choses à voir, mais le titre de cette œuvre, c'est « Les ombres hein, », parce que, les trois ombres, elles sont sur le sommet de la porte, en quelque sorte, elles montrent l'enfer qui s'ouvre sous leurs pieds, dans lequel elles vont plonger, ces ombres. Hein. Alors on va revoir un deuxième détail de la porte de l'enfer, cette fois en haut à gauche, là. Je vous montre un détail, il faut la voir hein, quand même. Hein. C'est plus ou moins caché. Et voilà la sculpture en question. C'est quoi ?
C'est une idée d'Atlas.
Un personnage accroupi, ouais, une femme accroupie.
Une femme,
oui. Une femme, oui.
Une damnée
qui porte quoi, oui.
Le poids de sa faute.
Eh oui. Et ce poids de la faute, il est incarné comment ? Dans une grosse pierre. Hein. On a une sorte de Sisyphe féminin. Hein. Voilà. Un Sisyphe qui tient là, une pierre qui n'en finit pas d'être lourde et lourde, une sorte de damnée. Entre parenthèses, vous voyez, c'est la même chose que pour le penseur. C'est-à-dire que ça, ça va dans les portes de l'enfer, mais cette sculpture, vous la verrez quelquefois seule dans les musées. Vous voyez ce que je veux dire, hein, hein. Toujours ce côté vivier qui sert pour Rodin à prendre des choses et à les isoler, ou des choses qu'il avait fait usuellement qui mènent en porte de l'enfer. Exactement la même chose. Alors ça, ça s'appelle Cariatide tombée portant sa pierre. Ce titre, il est intéressant, pourquoi ? Portant sa pierre, ça on comprend pourquoi, hein, mais pourquoi le mot cariatide, moi je trouve, est très intéressant.
Mais c'est toujours la référence. Elle est supposée tenir quelque chose,
oui.
Et maintenant elle a été écrasée. Elle était parce qu'elle portait.
Oui.
Et c'est toujours la référence classique, c'est Rodin qui est toujours. Il casse la tradition, mais. Il s'y comprend quand même.
Voilà, on est toujours dans la même chose. C'est-à-dire que je trouve que ça se voit bien quand on voit, quand on vient une seconde en arrière, quand on vient là, on voit que Rodin, et c'est vrai pour cette figure, mais comme pour les autres, hein, il est décidément dans la tradition, et puis l'emboutit. Il est dans la tradition parce que des cariatides, il y en a eu. Hein, c'est à l'Érechtheion à Athènes, hein, ces femmes là, qui, sur l'Acropole, vous connaissez ça. Hein. Donc les cariatides, c'est pas tout jeune, hein, mais en même temps, on a l'impression qu'ici, à part quelques éléments, vous voyez les éléments du bas, hein, où il y a vraiment de la structure, la porte est comme rongée par des personnages qui deviendraient des éléments d'architecture, vous voyez ce que je veux dire ? Petit à petit, c'est comme si l'architecture était complètement remplacée par des figures, vous voyez ce que je veux dire ? Il n'y a plus d'architecture, les figures prennent leur place. Et là, normalement, dans une porte à peu près habituelle, vous avez les corbeaux, par exemple, au haut de la porte, hein, qui soutiennent la corniche. Ben là, non. Les corbeaux deviennent une espèce de figure qui tient cette pierre. Alors, ça s'appelle cariatide, mais voilà, on est dans la tradition, une tradition qui déglingue au maximum. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors, regardons un peu une autre œuvre. Celle-là, en haut, à gauche, juste à gauche du penseur. Voilà. Cette figure-là, la voilà.
Qu'est-ce qu'il
peut contorsionner ? Contorsionner. Hein ? C'est superbe, ça. Hein ? C'est magnifique. Ça, je trouve que c'est... Moi aussi, je trouve ça incroyable. Ah oui, oui. On est entre cygne et grenouille, je trouve. D'ailleurs, Octave Mirbeau, qui possède un exemplaire de ça, l'appelait ma grenouille. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, je me demande, qu'est-ce qu'il y a d'incroyable dedans ?
C'est ça,
l'incroyable contorsion. C'est-à-dire, vous savez ce qu'il y a ? Mais on est toujours dans les trucs. C'est-à-dire que Rodin, c'est quelqu'un qui se saisit d'un vocabulaire dont on pourrait se dire, on a tout dit, hein, genre le corps humain nu, qu'il soit masculin ou féminin, depuis des siècles, ça va. Hein. Il y a des milliers de statues qui ont été faites, en Occident, j'entends. Hein. Alors, après, dans les cultures extra-européennes, il y aura mille choses à dire. Mais si des gens se restreignent au domaine occidental, Dieu sait que la chose a été exploitée. Hein. Donc on pourrait se dire à la fin du 19e qu'il n'y a plus rien à dire. Eh bien si, Rodin il fait un truc comme ça, et c'est... Enfin, on a l'impression qu'on n'a jamais vu ça, vous voyez ce que je veux dire. Cette espèce de pose qui est tout sauf académique, hein, est un truc qui est incroyable d'innovation.
Est-ce qu'il avait des modèles ?
Oui, il travaille avec le monde.
Il a plein.
Ah oui, c'est sidérant. Donc voilà, ça s'appelle La femme accroupie, ça ne vous étonnera pas trop. Et donc, effectivement, ce qu'il y a d'étonnant là, c'est à partir d'une idée qui est, somme toute, assez classique, de voir comment Rodin, par cette espèce de contorsion, crée quelque chose de très nouveau. pardon. Alors, le groupe suivant, c'est celui-là. Celui-là. Alors là, c'est pareil. Hein, Rodin a fait ce groupe. Il l'a, pouf, mis dans la porte de l'enfer, mais il en a fait aussi un groupe autonome. Que voilà. Qu'est-ce que vous voyez ?
Un homme qui tient une femme
accroupie. Une femme accroupie,
absolument.
Ouais.
Ah, oui. La dame qu'on vient de voir, mais sur...
Oui, c'est ça. Exactement. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le personnage que vous voyez là tient la dame qu'on vient de voir. C'est-à-dire que la même femme accroupie a été réutilisée par Rodin, là, qui les a mis dans les bras de cet homme qui la tient en l'air. Donc là aussi, ça montre autre chose. Vous voyez que Rodin... Il utilise même dans la porte de l'enfer plusieurs fois la même chose, quitte à les associer à d'autres sculptures. Donc vous voyez, il y a une espèce d'inventivité sans borne qui fait qu'il prend des choses, qu'il les associe. Ça, ça se voit beaucoup au musée Rodin. Hein. On voit énormément de choses. Rodin même, quelquefois, associait des objets de sa collection avec ses propres sculptures. Je pense par exemple à les vases antiques que Rodin avait dans sa collection personnelle, hein, dans lesquels il a mis des sculptures à lui, pour associer des objets antiques qu'il n'avait pas fait avec des choses qu'il faisait lui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il le fait aussi avec ses propres œuvres. Alors ça, c'est une œuvre qui s'appelle « Je suis belle » et qui est en fait inspirée par un poème de Baudelaire. Hein, Baudelaire, les fleurs du mal, s'intéresse beaucoup au Rodin, évidemment. Et là, il reprend un poème de Baudelaire pour faire cette...
« Je suis belle au mortel comme un rêve de pierre. »
Et bien voilà. Très bien. Et bien c'est la citation, effectivement... d'un vers, de deux bouts de vers dans l'histoire du mal. Alors, oui, je voulais vous montrer ça. Pourquoi ?
Comme un rêve de pierre.
Pourquoi je montre ça ?
Il a repris l'homme.
Exactement. Exactement. C'est-à-dire que là, Rodin reprend l'homme de Je suis belle, et je vous ai mis les deux à côté, pour faire l'homme au serpent. Hein, vous avez à droite Je suis belle, où il porte, alors où les bras sont refermés, hein, où il porte la femme accroupie de tout à l'heure, et à gauche il reprend le même corps, mais il met un serpent, on l'ouvre les bras, ça devient un serpent. Vous voyez comment il passe d'une œuvre à l'autre. C'est incroyable. Rodin, c'est une espèce de labyrinthe extravagant, avec une liberté qui en même temps est contrainte, c'est vraiment ce qu'on dit depuis le départ. On est dans une sorte de tradition, etc., et en même temps extraordinairement ouverte. C'est assez stupéfiant. Non ? 5. Alors, on va aller là. Ça s'appelle, je crois, l'homme qui tombe. Et voilà un détail du buste de l'homme qui tombe. Et ça vous fait remarquer quoi ? Musculature, voilà. Non, pas de membres. Alors, après Rodin, là, vous voyez, pour cette pièce, a donc éliminé tous les membres, mais qu'il a rajouté dans le rapport de l'enfer. Hein. Et ce torche, la vue de dos, vous rappelle quoi ?
L'homme qui porte.
Exactement. L'œuvre précédente. Et vous avez là le détail de Je suis belle, enfin de l'homme de Je suis belle, hein, qu'il reprend et qu'il va mettre à l'horizontale, couché sous le linteau de la porte de l'enfer. D'accord ? Et c'est le même temps que vous voyez là. Oui, c'est ça, c'est un copier-coller, exactement. Voilà. C'est le torse de l'homme qui tombe, mais qui est une reprise du torse de l'homme de Je suis. C'est du copier-coller. OK ? Alors, 6. On va aller là, dans le ventail de gauche. On va regarder ça, c'est-à-dire ça. Qu'est-ce que vous auriez à dire ? Un petit peu, peut-être un peu plus. Ouais. Un peu tordu. Parce que là, c'est une dame. Hein. Et vous voyez qu'elle est en train de se tenir un pied. Vous connaissez beaucoup d'œuvres comme ça, vous ?
Celui, le chercheur d'épines.
Ah, le spinario, le petit spinario. Hein. Alors, c'est vrai qu'il existe dans la tradition antique la représentation d'un jeune homme qui est assis comme ça et qui se cherche une épine dans le pied. Hein. Enfin, le spinario, le chercheur d'épines, est très sage par rapport à ce qu'on a là. Hein. Mais c'est vrai que ça fait penser un peu à ça. Non, peut-être ce qu'on pourrait dire comme ça, c'est un peu la même chose que pour la femme accroupie tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on voit comment Rodin, à partir d'un vocabulaire qui semble totalement éculé, quoi, une femme nue, c'est pas la première fois qu'on en a une, hein, eh bien là, il trouve des choses nouvelles à dire avec ce vocabulaire absolument ancien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme la femme accroupie tout à l'heure. Il n'en finit pas de nous surprendre avec des thèmes qui pourtant sont travaillé depuis des millénaires. C'est ça qui est, je crois, très très étonnant, qui a beaucoup surpris la critique. Hein. Voilà. Ça s'appelle le désespoir. De fait, c'est un penseur, voilà, franchement désespéré, plutôt une penseuse. Alors, regardons un autre détail qui se trouve en bas du ventail de gauche, que voilà, et dont je vous montre l'œuvre en plat. C'est quoi ça?
Une mère avec ses enfants.
Oui.
On dirait la louve.
Ah, il y a un côté louve. Ça, c'est intéressant ce que vous dites. Très intéressant. Oui. Alors, on a une femme avec des enfants. On dirait un peu la louve du Capitole. Mais la louve serait remplacée par une femme. Une femme.
Moi, je
À vrai dire, c'est plutôt un homme. C'est pas une louve, c'est un loup. Ouais, c'est un garçon. Alors, on ne voit pas expressément, mais si je retourne la pièce, vous pourriez le vérifier. C'est bien un garçon.
Moi, il a des épaules.
Oui, c'est un garçon.
Oui, une expression de visage.
Oui,
qui est...
c'est une expression
c'est
torturée aussi.
Ah oui, ça se passe mal. Qu'est-ce qui se passe? Pardon. Absolument. C'est Hugo. Vous pouvez me dire
oui,
un peu ce que
c'est? Oui, c'est ça.
Écoutez, je sais simplement la fin. Je crois que c'était dans une misère noire et Hugo a fini par manger ses enfants.
Exact.
Voilà, il avait été enfermé.
C'est ça. C'est-à-dire que Hugolin, vous avez donc effectivement trouvé ce dont il s'agissait. Hugolin est un tyran de la ville de Pise, qui à la fois est inspiré d'une figure réelle, mais qui a été, on va dire, reprise par Dante dans la Divine Comédie, puisque nous sommes toujours dans la Divine Comédie, je vous rappelle. Hein. Et il nous raconte l'histoire d'Hugolin, qui a été donc tyran de la ville de Pise, mais qui a trahi sa patrie. Ce qui fait qu'il a été capturé et on a décidé de l'enfermer dans une tour, la tour de Galandi, avec ses enfants et de laisser mourir tous les 5 de faim. Lui et ses 4 enfants. Effectivement, l'histoire, plus ou moins légendaire, dit que Hugolin a vu mourir les uns après les autres ses enfants et que lui-même, pour ne pas mourir, les aurait dévorés. Hein. C'est ça que quand vous avez dit tout à l'heure, c'est un loup, une louve, hein, c'était très juste comme disant des choses, que c'est un peu ça, quoi. Il est là, vous voyez cet homme qui est réduit à mourir de faim, quoi. Enfin, et là, comme il est comme une espèce de bête, hein, ce thème avait été représenté déjà par d'autres sculpteurs au XIXe, je pense à Carpeaux, par exemple, hein, mais qui avait fait un Hugolin beaucoup plus présentable. Là, René, il nous le met par terre comme un loup, quoi. Vraiment, hein, ça devient une bête, quoi. C'est l'homme qui devient une bête. Voilà, donc c'est Hugolin et ses enfants. Donc, effectivement, une œuvre que vous avez bien vue. Hein, et que, là aussi, Rodin va sortir la porte de l'enfer pour faire une œuvre à part entière. 8. En bas, là, du ventail de gauche, une autre œuvre encore, dont voilà le plâtre. Qu'est-ce qu'on devine?
Deux corps,
on en devine un là au premier plan, hein, puis on a un derrière, plus ou moins, oui, plus ou moins vachis l'un au-dessus de l'autre. Une idée de ce que ça peut représenter? Pardon? C'est vrai que ça fait penser un peu à un déluge. C'est intéressant ce que vous dites, parce que dans les portes de l'enfer, vous l'avez vu, hein, il y a une espèce de vent général, de déluge général. On a l'impression que ces personnages que je vous détaille, là, ils sont emportés dans une sorte de tornade. Hein. Ça bouge, effectivement. C'est une sorte de déluge, effectivement. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut représenter? Une histoire plus ou moins légendaire, mais que Rodin a pris dans la Divine Comédie. mais qui a une part de réalité, même si Dante l'a transformé, etc. C'est l'histoire de Paolo et Francesca. Ça dit quelque chose?
Oh oui, bien sûr.
Hein, vous, en deux mots, je vous la raconte?
Oui.
Francesca d'Arimini était mariée à un homme, mais voilà qu'elle va tomber amoureuse du frère de son mari. À tel point que les deux amants, Francesca et le frère de son mari qui s'appelle Paolo, vont se retrouver parfois pour deviser ensemble, etc. Mais un jour, le mari va surprendre son frère, Paolo, et sa femme, Francesca, en train de compter fleurettes. Il va les assassiner tous les deux en même temps. Voilà. Ça, c'est un autre thème développé par Dante, d'après une histoire plus ou moins réelle. Et c'est un des grands moments de la Divine Comédie, hein, que d'ailleurs beaucoup d'artistes romantiques, je pense à Ingres, vont beaucoup illustrer, hein, l'histoire de Paolo et Francesca. Alors évidemment, c'est à la fois un péché, hein, ils sont dans un des cercles de l'enfer, ils ont commis un péché qui est le péché d'adultère, ça c'est pas bien du tout, hein. Mais en même temps, c'est un amour très romantique, hein. C'est la femme qui aime pas son mari, mais le frère de son mari, c'est quand même terrible, quoi. Si on n'était pas au 19e, on dirait que c'est cornélien, quoi.
Enfin, ils sont que dans le premier cercle.
Pardon ?
Ils ne sont que...
Je crois que c'est le deuxième. Début. Je crois que c'est le deuxième.
Oui, enfin, ils sont au tout début.
C'est au début. C'est le deuxième cercle de l'enfer. Donc, c'est pas un péché bien méchant.
Oui, hein.
Parce que le Ugolin, il est dans le neuvième cercle. Oui. Là, il est dans le dernier. Hein. Alors que Paolo et Francesca sont dans le deuxième. Comme vous dites, ça va encore.
Hein. Oui, ça va encore.
Voilà. Parce que c'est un péché, mais bien mignon. Hein. Bon. Par parenthèse, ce thème de Paolo et Francesca... Rodin l'a repris. Ça vous dit quelque chose?
Exactement.
Rodin avait d'abord imaginé son Paolo et Francesca comme ça. Puis il a trouvé que finalement, ben, l'œuvre était un peu trop gaie, un peu trop sereine, un peu trop... Alors il a complètement détaché la porte de l'enfer et l'a remplacé de ce qu'on vient de voir. Et le baiser est devenu le baiser. Mais à l'origine, c'est Paolo et Francesca. D'accord. Quand on a vu tout à l'heure que les portes de l'enfer étaient vraiment ce vivier incroyable dans lequel Rodin a puisé, hein, je ne vous mentais pas. Hein. Alors là, qu'est-ce que vous pourriez dire?
Une madame.
Ouais. Donc c'est une damnée encore. Hein.
Oui,
recroquevillée.
Qui nous regarde.
Bon, là, rien de particulier à dire. Hein. C'est une damnée recroquevillée qui nous regarde, comme il y en a 3 tonnes dans les portes de l'enfer, on est d'accord, plus ou moins contorsionnées. Si je vous la passais, c'est parce que là aussi, Rodin, qui en a fait une damnée dans la porte de l'enfer, il l'a ressortie pour en faire une Andromède. Vous savez, Andromède, ça vous dit quelque chose? Andromède, c'est une héroïne de l'Antiquité, et pour des raisons que je n'ai pas le temps d'évoquer, mais on l'avait enchaînée sur des rochers au bord de la mer pour qu'elle soit dévorée par un monstre. Mais heureusement, Persée, ça n'est pas Zorro, hein, c'est Persée qui est arrivé et qui a délivré Andromède. Donc, très content de cette damnée, si vous voulez, Rodin a dit de la sortir pour en faire non plus du tout une damnée, mais au contraire une princesse qui va être sauvée par un beau héros qui est Persée. Ok ? Et d'ailleurs, bonjour.
Excusez-moi.
Je vous en prie. On termine dans 10 minutes.
D'accord.
Hein, à la nuit. Et alors, chose intéressante, Rodin, parce qu'il y a un cours juste après. Hein. Et Rodin va reprendre encore ce même thème pour refaire de cette même Danaïde qui est devenue Andromède une Danaïde. Vous savez, les Danaïdes, c'est ces femmes qui ont été condamnées parce qu'elles avaient toutes tué leur mari, ce qui ne se fait pas du tout. Hein. On les avait condamnées à, durant des siècles et des siècles, mettre de l'eau dans un tonneau, mais le tonneau étant percé, et ben, elle continue depuis des millénaires à remplir un tonneau qui se vide tout le temps. C'est ça. Et puis je vous montre un dernier petit, pour qu'on termine dans les temps, un dernier petit exemple, c'est ça, qui est repris à 2 endroits. Là, le groupe dont on va parler pour terminer a été repris dans 2 sens différents dans les portes de l'enfer. Mais alors, c'est ce thème-là qui représente quoi ?
Deux corps.
Voilà, un à l'endroit, un à l'envers.
Dos à dos.
Ça, c'est plutôt un corps de quel genre, comme on dit aujourd'hui ?
Masculin.
Et là ?
Féminin.
Alors, cette œuvre, elle s'appelle Fugit Amor. Ça vous dit quoi ? fougit
à mort.
La mort qui s'enfuit. Hein. C'est-à-dire que, en fait, c'est des corps qui essaient de s'étreindre et qui n'y arrivent pas. C'est la tornade, la tempête dont vous parliez tout à l'heure. Hein. Une espèce d'ouragan. Hein. Dans les portes de l'enfer, les personnages essaient toujours de s'agripper, n'y arrivent pas. Ça va dans tous les sens. Hein. Et là, c'est une œuvre que Rodin a reprise à deux reprises dans les portes de l'enfer. Hein. Fougit à mort. Et si je vous montre ça, c'est pourquoi, à votre avis ? Avant que nous exactement, c'est-à-dire que le corps que vous voyez là, c'est le même que le corps masculin que vous voyez là. Ce corps masculin, vous enlevez la femme, vous enlevez le bloc de marbre, vous mettez debout, ça donne ça. Et ça, Rodin va en faire l'enfant prodigue. Vous voyez comment, hein, je crois que en répétant tout ça, on voit bien comment Rodin travaille. Alors, on a encore 5 minutes, et pour terminer tout à fait, je voulais vous montrer ça. Parce que cette œuvre de Rodin a eu certains échos. Par exemple, un artiste très célèbre, mais pas du tout français, a réalisé ça, qui, vous le voyez, c'est un dommage au penseur. Qu'est-ce qui a pu faire ça ? Il y a la signature, mais je l'ai barrée de blanc en bas à droite. Je me fais souvent avoir, mais là, non.
Un impressionniste ?
On va dire un post-impressionniste nordique.
Un autrichien.
Pas autrichien, mais c'est vrai que ça fait penser à ça.
Mondrian.
Non, c'est vrai que ça fait penser à ça, mais c'est pas ça. Pardon, j'ai entendu. Oui, absolument. Alors, on peut l'appeler Munch à la française ou Munch à la norvégienne. C'est une œuvre de Edouard Munch ou Edouard Munch, si vous voulez, hein, qui représente évidemment le penseur de Rodin dans la collection, parce que il y en a encore une fois toute une série. Nous détendre un peu après ces vues damasques, je voulais aussi vous montrer que le penseur de Rodin a fait l'objet de quantité de caricatures. Hein. Et là, je vous montre le penseur de Rodin, hein, qui a été tellement poncé qu'il n'a plus de bras, plus de tête, plus rien. Je voulais aussi vous montrer une autre caricature, il y en a des tonnes, hein, qui montre le face-à-face entre deux chefs-d'œuvre de la sculpture, la Vénus de Milo d'un côté et le penseur de Rodin de l'autre. Hein. Vous voyez que le penseur de Rodin est très lubrique, hein, il ne pense qu'à une chose, et la Vénus se plaint évidemment des pensées un peu trop lubriques du penseur. Et puis là, cette caricature que je trouve très drôle, où on voit, c'est une caricature américaine, hein, deux touristes qui sont dans un musée, qui regardent le penseur, qui évidemment est pris dans ses pensées profondes, et elle dit personnellement, je suis une femme active. Hein. Montrant évidemment qu'elle n'est pas comme le penseur qui est là, voilà, statique. Hein. Bah, ces trois caricatures, mais on pourrait vous en passer des tonnes d'autres, hein. C'est pour vous montrer à quel point c'est une œuvre qui polarise l'attention. Et je voulais terminer en vous montrant ça. On a encore 2 minutes, donc ça va. Qu'est-ce que c'est que ça ?
L'inauguration ?
Oui. L'inauguration de quoi ? Bah, du penseur.
Du penseur.
Mais où ?
C'est la Madeleine.
Alors, c'est pas la Madeleine.
Non, vous avez dit à Londres.
C'est pas à Londres non plus. Pardon. Au Panthéon, devant le Panthéon. Parce que, vous savez, le penseur de Rodin a été présenté au public en France pour la première fois en 1904. L'œuvre a été assez mal accueillie par la critique, elle dit que c'est un gorille, etc. Mais par contre, populairement, c'est une œuvre qui a fait un tabac. C'est-à-dire, tout de suite, penseur de Rodin a été vraiment. On y a vu, si vous voulez, tout ce que vous avez bien résumé tout à l'heure, c'est-à-dire une vision non académique de la pensée, et qui à la fois, si vous les combinez, le subtil et le réaliste, vous voyez ce que je veux dire, hein. Ce côté brut, épaisse, mais intelligente, vous voyez ce que je veux dire, hein. Une sorte d'œuvre finalement profondément populaire, et en plus mise devant le Panthéon, où il y a Voltaire, Zola, Hugo, cette œuvre très vite a été très très populaire. Encore une fois, dès son arrivée en 1904, on décide d'en faire un tirage que l'on décide de mettre devant le Panthéon, et c'est fait 2 années plus tard. Ça, c'est l'inauguration du penseur de Rodin devant le Panthéon en 1906. Le problème, c'est que cette œuvre très, si vous voulez, très, très célèbre, très populaire, va très vite devenir une sorte d'icône sociale. On va y voir une sorte de vision allégorique de la pensée, mais de la pensée de gauche, de la démocratie, des choses, je dirais, de cette pensée qui est illustrée par toutes les érections qui sont à l'intérieur du monument. Ce qui fait que très vite, le penseur de Rodin, au début du siècle, va être le lieu de départ de plein de manifestations. Ça va être vraiment le pivot où commence non pas à la République, mais au penseur de Rodin. Et on va trouver, au bout d'un moment, après la Première Guerre, que ça commence à poser un petit peu de problème. Alors on va décider bien vite de latéraliser, si j'ose dire, le penseur de Rodin. Là, c'est là, le petit cartel qui évoque de quoi il s'agit. Et c'est en 1922 qu'on va déménager le penseur de Rodin, qui n'est plus devant le Panthéon, et on va le mettre dans les jardins de l'hôtel Biron, qui est devenu, vous le savez, le musée Rodin. Et là, entre ces roses, le penseur n'a plus aucun sens subversif. Il n'est plus l'espèce de Brûlot qui était devant le Panthéon, ce qui était évidemment une icône quasi révolutionnaire, hein, que d'une certaine manière le peuple s'était approprié. Et ben voilà.
Merci.
Je crois qu'on aura fait le tour. Bravo, bravo à vous, vous avez été superbes comme d'habitude.